Le terme de péché n'a pas bonne presse au XXIe siècle, souvent perçu comme vieillot, poussiéreux, il transporte avec lui tout un imaginaire de culpabilité, une vision pessimiste de l'humanité. Pourtant, l'évangile, ce n'est pas que ça, c'est aussi un message libérateur. Alors pourquoi la religion nous culpabilise-t-elle autant? C'est ce que nous vous proposons d'approfondir aujourd'hui pour cette troisième émission consacrée à la culpabilité.
Psy et spi, Sophie Lecomte, avec le père Jean-François Noël.
Bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles, également psychanalyste. Alors la culpabilité, est-ce qu'on peut dire que c'est au cœur des questionnements des chrétiens? Et j'ai envie de vous dire pourquoi la religion culpabilise-t-elle autant? Et j'aurais envie de rajouter la religion catholique. Vous êtes d'accord avec moi? Ou vous me trouvez un peu dur?
Un peu dur avec les catholiques ou avec les...
Avec les catholiques, oui, peut-être.
Non, je pense que... Enfin, la culpabilité est envisagée différemment chez les orthodoxes et les protestants, mais on partage un même souci de gérer la culpabilité dans les trois confessions chrétiennes. Alors, pas de la même manière, peut-être, mais peut-être, non, je sais pas. Orthodoxe, je sais pas, mais les protestants, elle est très active aussi. Elle a été même au cœur de beaucoup de dialogues, de rixes avec les catholiques. Non, je pense que, comme je le disais dans la précédente émission, elle est la voie, elle nous oblige à une interrogation intérieure dont nous aimerions nous dispenser. Voilà. Au fond, comme je l'ai dit aussi, nous allons inventer mille et une stratégies pour l'éviter, et qu'à bout d'un moment, on va y être confronté et il va falloir aller la sonder, aller l'interroger. Voilà. Donc, oui.
C'est juste de dire qu'elle est au cœur des questionnements des chrétiens.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, il y a une différence entre la culpabilité et le péché. On pourrait le dire dès maintenant, comme ça, c'est le péché, c'est qu'il y a quelqu'un en face contre qui j'ai fait une faute, que la culpabilité est quand même un sentiment plus psychologique, et pour l'instant, il n'y a personne en face. Enfin, ou alors, la victime, mais bon, je vais dire que c'est un sentiment plutôt de l'interrogation personnelle, alors que le péché va rentrer cette culpabilité dans une histoire. C'est pas uniquement contre mon frère que j'ai péché, mais contre Dieu.
Et ce terme de péché, c'est vrai qu'il a quand même...
C'est la classique définition de la cible. En fait, c'est...
Pourquoi on l'accepte vraiment pas aujourd'hui? Dès qu'on dit ce mot-là, on sent tout de suite des visages qui se figent.
Parce que ça a été prononcé à temps et à contre-temps. Et on a oublié le deuxième versant du péché qui était le pardon. Maintenant, peut-être qu'on a d'ailleurs trop insisté sur le pardon. Il faut tenir les deux en même temps. C'est-à-dire, il faut tenir le Vendredi Saint, la mort et la passion et la résurrection du dimanche. C'est-à-dire, on a énormément culpabilisé les gens. Si tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu iras pas au paradis, patin coup fin. Et puis après, on a un peu démonté la dureté du Père parce qu'elle était exagérée, pour lui montrer un visage plus maternel ou en tout cas plus tendre. Mais vous voyez, on peut pas tenir l'un sans l'autre. Enfin, moi, je vois par exemple que l'arche que je défends beaucoup,
l'image, la communauté de l'arche,
la communauté de l'arche. J'ai connu Jean Vanier quelques années avant sa mort.
Jean Vanier qui est visé du coup,
qui est visé aussi par des relations inappropriées avec des femmes. Après coup, bon, j'avais été le rencontrer parce que j'étais parti en Haïti. Je pense à lui. Je pense à ces communautés actuellement, parce que Haïti est à feu et à sang. Mais en tout cas, j'avais été le rencontrer avant d'aller rencontrer les communautés là-bas, donc j'avais été le voir à Trolley. Et en fait, en l'écoutant, enfin, c'est-à-dire, c'est moi qui fais la conférence, mais le soir, on a parlé. Bon, c'était un homme tout à fait étonnant. Bon, après, il n'était pas sans ombre, mais qui n'est pas sans ombre, hein, faut pas jeter la première pierre, faut être quand même... Mais enfin, il n'empêche que il appuyait tellement sur ce rapport de tendresse que je me disais déjà à l'époque, oui, mais où est la faute dans la vie? Il faut bien qu'on passe par... Vous voyez, à force d'appuyer sur un élément du visage de Dieu, on oublie l'autre, qui est que la faute le fait souffrir. La faute provoque une souffrance chez le plus mon petit frère que j'ai, dont je me suis moqué. Et puis, parce que alors, j'en profite pour dire, dans les confessions d'enfants, c'est très intéressant les réactions d'enfants. Les réactions d'enfants, c'est, ils ont en général, les filles, elles ont plein d'histoires, mais pas, elles sont souvent, voilà, elles ont des histoires de trahison, de j'ai dit mon secret à ma meilleure copine qui l'a dit à l'autre, mais donc je lui parle plus parce que donc on s'est pas réconcilié, donc etc. Ça c'est plutôt les filles et c'est plutôt intéressant parce que c'est le grand cycle de la des trahisons et des secrets. Ça c'est vraiment. Mais les garçons, excusez-moi, on est un peu quand même assez brut de coffrage. Ils ont pas grand chose. Sauf que quand vous leur sans leur donner des idées, vous leur demandez s'ils mentent, alors ils disent un peu. Pas tellement, bon ça c'est intéressant, et puis il y en a qui m'avaient dit, je fais des mensonges mais je suis pas un menteur. Ce qui est très intéressant, parce que il reconnaît une culpabilité de faire un mensonge, mais il veut pas être confondu avec sa faute. Donc il cherche une voie de sortie d'être un professionnel du mensonge, voilà pour le dire comme ça. Alors...
Ou alors sur cette question de la culpabilité, vous avez souhaité évoquer l'évangile de Jacob, enfin
le texte de la Genèse de Jacob.
Pardon.
Oui, alors il faut replacer dans le contexte. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout.
Allez-y, je vous.
Bon, Jacob, c'est le fils, c'est le frère d'Ésaü, donc les fils jumeaux d'Isaac, qui est donc le deuxième après Abraham, etc. Et quand ils sont nés tous les deux. On dit que Jacob tenait le talon de son frère. Donc, déjà, la rivalité ou la rivalité jouée. Alors, déjà, je ne sais pas, j'ai jamais compris qui est l'aîné dans une gémellité. Enfin, bon, peu importe le faire. Le fait est que l'aîné, c'est Ésaü, bien que jumeau, et Jacob arrive derrière. Il s'avère que Ésaü est plutôt sportif, etc., et devient le préféré de son frère, de son père Isaac, et que Jacob... qui est plus silencieux, plus voilà, et plus malin, et plus rusé aussi, devient le préféré de sa mère. Bon, il y a une complicité assez rigolote dans l'histoire que je renvoie les gens à la Genèse avant le chapitre 32 dont on va lire un extrait. C'est que sa maman dit ce serait bien que Jacob devienne l'aîné parce que l'aîné c'est à la fois un privilège et aussi une charge. Et puis il y a une histoire de blas de lentilles. Il finit par Ésaü un soir arrive fatigué de la chasse et prêt à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est le fameux plat de lentilles. Donc, ayant ce droit d'aînesse, sa maman, qui est toujours aussi rusée que le petit parce qu'elle l'adore, va pousser Jacob avec un manteau de mouton sur les bras, parce que Isaac a perdu la vie, et l'enfant demande la bénédiction de son frère, de son père, puisqu'il a acheté le droit d'aînesse, maintenant il demande la bénédiction, donc il vole son frère, voilà, bon. Mais puis la vie de Jacob continue de ruse en ruse avec son oncle Laban, je raconte pas tout, etc. etc. Il s'avère qu'en fait, il se fait aussi avoir par Laban, parce que dans la nuit de noces, Laban ne met pas la jolie belle Rachel qu'il avait, dont il est amoureux, mais l'autre qui louche, qui s'appelle Léa. Et bon, bref, tout ça fait que Jacob accumule, je vais dire, ses ruses et ses stratégies d'évitement. Et puis un jour vient... où il sait qu'il va falloir qu'il rencontre son frère Ésaü, qui est entre-temps devenu un grand guerrier. Voilà. Et on en arrive à ce texte incroyable, qui est un des grands textes. Il y a deux, trois textes très mystiques dans la Bible, et celui-là en fait partie, où Jacob redescend dans le sud, parce qu'on pense que c'est pas sûr. Enfin, en tout cas, se prépare à rencontrer son frère Ésaü, qui entre-temps a des armées, des troupeaux, etc. Et là, lui fait passer... donc le Jourdain, je pense que c'est au gué du Yabok. Le gué, c'est très important dans ces traditions nomades, parce que c'est là où on peut faire passer les bêtes sans qu'elles se noient. Et il fait passer tout le monde. Les troupeaux, les brebis, les agneaux, et ses deux femmes, parce qu'il a deux femmes. Et ses enfants, et tout, et tout, et tout. Parce qu'il y a, à l'époque, il n'y a encore que 11 enfants. Il y aura un 12e, qui veut d'ailleurs fonder les 12 tribus d'Israël, puisque Jacob va s'appeler finalement. Et puis il se retrouve seul. C'est la première fois que Jacob, en fait, accepte d'être tout seul en une pleine nuit. Je lis rapidement le texte. Cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses deux femmes, deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait, et Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, l'homme, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit dans ce combat. L'homme dit, donc pas Jacob, mais l'homme, le quelqu'un, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » Rappelez-vous que quand même, il a volé la bénédiction de son frère. L'homme demanda « Mais quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » C'est là que c'est la fondation, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as remporté. Jacob demanda « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. En deux mots. Quand on lit le texte, en fait, on ne sait plus très bien qui est quoi. C'est fait exprès. Et je renvoie au tableau, alors à chaque fois je me trompe, qui est à Paris, c'est Jéricho ou Rembrandt, je ne sais plus, où on voit l'ange se batailler avec Jacob dans la nuit. Il faut que j'aurais pu vérifier, mais les gens vérifieront sur Internet. Où en fait, on ne sait pas si c'est c'est à la fois un combat et comme deux frères qui se battent, quoi, je veux dire, et en même temps une étreinte.
Et qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la culpabilité ?
Oui, vous avez raison de poser la question. C'est qu'à un moment donné, il va falloir un jour qu'on se confronte à la culpabilité, au fond de la culpabilité. Et la culpabilité de Jacob, c'est d'avoir trompé et son père qui est mort et son frère. Et au fond, tant qu'il n'a pas retrouvé son frère, il porte en lui une culpabilité d'une faute qu'il a commise contre une chose qui est très importante, qui est le problème de l'héritage, mais ce n'est pas simplement l'héritage matériel ou patrimonial, c'est l'héritage de la bénédiction d'Abraham qui se transmet de père en père. Et donc, au fond, il porte une culpabilité. Et donc, une nuit, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, une nuit, il a une nuit agitée et se bat. Il ne sait pas avec qui. Alors moi, j'en fais l'interprétation, mais pas que moi, aussi les traditions juives, que ce quelqu'un et cet homme, qui d'ailleurs dans la tradition, dans les textes bibliques sont indiqués que c'est un ange, mais c'est rien d'un ange, c'est pas marqué. Souvent les titres des textes bibliques sont déjà interprétatifs. En fait, c'est une figure composée de il se bat contre son frère, demande la bénédiction, contre lui-même, contre sa peur de l'angoisse, de l'angoisse de la culpabilité, et contre et avec Dieu. Et en fait, Dieu est celui qui l'aide à combattre sa culpabilité.
On arrive déjà à la fin de cette émission. En un mot, la culpabilité, c'est un combat spirituel?
Oui. Enfin, elle se résout comme un combat spirituel.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles, également psychanalyste. Et vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Comment le Christ libère de la culpabilité sera le thème de notre prochaine émission. Belle semaine à tous sur RCF.
Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël.